Bonjour Mariem.
Bonjour.
Tout d'abord, merci d'être présente pour cet entretien dans le cadre de notre projet SoroCity. Donc il s'agit d'un entretien semi-dirigé, c'est-à-dire que on va vraiment beaucoup plus en profondeur. Prends ton temps, réponds sans compter les minutes, vraiment prends ton temps et sens-toi libre dans tes réponses. D'accord ? Alors, le questionnaire porte essentiellement autour de la thématique de ton histoire personnelle avec l'art. D'accord ? Et puis, cette thématique-là est déclinée en plusieurs sous-questions. Bien. Alors, tout d'abord, Mariem, est-ce que tu pourrais juste te présenter sur base de ta carte d'identité ? Je dirais ton nom, ton prénom, ton âge, où tu vis. Enfin, voilà, sur base de ta carte d'identité.
Ok, merci pour cette invitation, pour ce interview. Moi, je suis Mariem Memni, je suis d'origine tunisienne. J'ai 31 ans. Je suis artiste visuel et invisuel, on peut dire ça. Visuel avant, quand j'étais en Tunisie, parce que j'ai fait tout mon parcours en Tunisie avant le 2018. Et j'ai fait un master de recherche en art visuel. Et j'ai commencé une thèse, après j'ai arrêté. Et quoi d'autre ? Après, je suis venue ici à Bruxelles. J'ai travaillé avec une compagnie de théâtre. Et après, j'ai fait l'école d'art ENDA, École nationale d'art invisuel, école de recherche, École nationale de recherche en art invisuel. Et j'ai découvert l'art invisuel.
Bien. Bon, tu vas nous en parler un peu plus en profondeur après. Et qu'est-ce que tu as comme formation alors ?
En fait, j'ai une formation, on peut dire, formation artistique. Mm-hmm. De base, je fais l'école des beaux-arts, j'ai fait art visuel, mm-hmm. J'ai un master de recherche en art visuel, mm-hmm. Aussi après je fais, comme j'ai cité, et ma thèse un peu sur, parce que dans l'art visuel j'ai fait peinture, mm-hmm. Après je me suis intéressée à l'art de spectacle, et mon master, il était mélangé entre le théâtre et la performance. Et je travaillais sur la différence entre le théâtre et une performance. C'est quoi la différence entre ces deux, mm-hmm. si vous voulez un peu... parce que après, peut-être, si vous avez des questions sur ça, je peux répondre. Mm-hmm. Et après, c'est ça. Ma formation de base, elle est artistique et théâtrale.
Très bien. Et pourquoi avoir choisi Bruxelles ?
Ok, ça c'est bien, ça c'est très bon. Question, Bruxelles pour moi, c'est... Moi je le nomme, par rapport à moi, je nomme la ville de l'amour pour moi. La ville où j'ai, peut-être je peux dire, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est vrai, j'aime mon pays, mais j'ai pas choisi d'être tunisienne, j'ai pas choisi d'être femme, j'ai pas choisi d'être là-bas. Mais j'adore mon pays, mais mon cœur a choisi, on peut dire, la Belgique, elle a choisi Bruxelles, et j'aime ce pays. J'ai jamais senti expatriée, malgré j'étais peut-être à Paris, j'étais dans d'autres, mais Bruxelles, elle a quelque chose de très, je me sens jamais pas chez moi, je me sens toujours chez moi.
C'est ça, c'est une ville très accueillante et qui ne juge pas finalement. Mmh. Très bien. Ok, et donc tu as 31 ans. Et donc ta discipline artistique, tu nous as parlé de à la fois art visuel, art invisuel, mais à la base, est-ce que tu as une discipline de prédilection
Discipline comme comment je...
que par la peinture ou la photo
En fait, moi je fais la peinture, je fais la caricature, mm-hmm. aussi je fais tout ce qui est art visuel, on peut dire. J'avais fait aussi des gravures, sculptures, j'ai touché à tout, mm-hmm. et j'étais toujours à la recherche de quelque chose un peu différent. Et après, je me suis intéressée beaucoup à la performance de base, parce que c'était la plupart de mes trucs, c'était des performances. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté à certains moments, que j'aime pas faire la peinture, mais je fais tout. Mm-hmm. Mais j'étais spécialisée à la performance et surtout sur le corps de la femme dans l'espace public. Ouais. Et après la révolution en Tunisie, on peut dire de 2011, parce que c'était un peu différent. C'était, j'essayais de travailler sur le corps féminin dans l'espace public. Mmh. Et c'était, il y avait beaucoup des choses peut-être à raconter. Si après on voulait approfondir, on peut discuter ça.
Bien sûr. Okay. Oui, par rapport à la situation là-bas, peut-être aussi.
Oui, peut-être. Mmh. C'est, moi, je parlais de la situation, on peut dire, l'image de la femme maghrébine à travers la perception masculine dans la mémoire collective. Comment l'image de la femme peut se construire à travers la mémoire collective qui, elle, on peut dire qu'elle nous rend comme... Chaque fois, elle nous met dans ces cadres, dans ces... C'est un peu, on peut dire, ces stéréotypes qu'on apprend. Et malheureusement, ce n'est pas l'homme qui fait ça, mais c'est la femme qui transmet ça de femme à une autre. Comme ça, elle, c'est une femme, et là, tout ce qui est, tu vois, on peut dire, tous les éléments féminines, mais et c'est elle qui installe le truc de patriarcal chez les autres filles, les nouvelles femmes du futur.
La tradition.
La tradition, oui, la tradition. Et,
qu'elle perpétue.
Oui, oui.
D'accord, donc ça ne vient pas de l'homme. Et tu disais, vous disiez donc par rapport à votre travail artistique, comment vous parveniez à sensibiliser alors justement vos pères, enfin les personnes, les publics à cette question-là, par quel biais exactement? Par des performances ou par de l'art plastique plutôt?
Partout, chaque truc qui peut me faire servir on peut dire ce sujet un peu, parce que ça me touche beaucoup. Je suis née dans une famille très religieuse. Et j'étais un peu, on peut dire, parfois ça c'est la partie, on peut dire, un peu noire de ma vie, mais j'ai passé par ça. C'est pas tellement noir, mais j'ai appris. Et je suis née dans une famille très religieuse, très conservatrice. Mm-hmm. Pour nous, moi j'étais un peu très brillante à l'école, on peut dire pas très très, mais j'étais brillante quand même. Mais mon père, plutôt, c'était l'image père-papa, parce que maman, elle était toujours quelqu'un de très souple. Et très... Mais mon père, il était très dur avec moi, parce qu'il voulait que je fasse des choses un peu... Je fais l'anglais, ou prof d'anglais, ou je sais pas, moi, faire le droit, et des études en droit et tout. Mais à certains moments, moi, j'étais toujours... j'adore faire tout ce qui est artistique comme ça, mais je le fais en cachette. Parce que je sais bien, papa, elle va me punir à ce moment-là. On me punir d'une façon, on me dira, ah, ça, c'est pas bien, ça sert à rien, l'art, dans la vie, on peut pas vivre de l'art. C'est quelque chose de non essentiel pour papa. Mm-hmm. Malgré, avant, quand je le vois, avant qu'il me raconte ses histoires, il fait des trucs un peu artistiques sans le savoir. Mm-hmm. Et du coup, j'avais ce amour à l'art sans dire à mon père... Et j'ai continué comme ça jusqu'à un âge que j'ai dit, je fais aussi le théâtre en cachette, sans dire, je dis, ah, j'ai des heures pour faire des cours, mais je dis pas si c'était du théâtre. Ah, c'était... Oui. Du coup, c'était tout en cachette jusqu'à mon bac. Et le moment de mon bac, il m'a dit, si tu es la première, je veux te laisser faire tout ce que tu veux. Mm-hmm. Et ça, c'était le grand conflit, moi, parce que je ne peux pas enlever ça de ma tête. C'était un peu... Et c'était un peu... Parce que j'étais voilée aussi de l'âge de 13 ans jusqu'à... J'étais d'une famille très religieuse.
Très, très traditionnelle.
Traditionnelle. Okay. Et du coup... Le moment où j'avais mon bac, j'étais la première à l'école. Mm-hmm. Et j'ai dit, papa, tu m'as promis, si je fais ça, ça sera bien. Et moi, j'ai choisi que je peux choisir ce que je veux. Et moi, j'ai choisi de faire de l'art. Elle était un peu... Elle m'a rien dit. Après, elle m'a dit, ok, on va voir. Parce qu'elle m'a promis, pour moi, quelqu'un qui m'a promis, je dois avoir ça. Et j'ai jamais dit non à mon père. J'ai toujours été... J'ai dit, je fais tout ce qu'il me demande sans rien. Mmh. Et à un moment, j'ai dit, elle m'a dit, elle est sortie, elle est revenue. Non, non, tu ne peux pas faire l'art. Non, non, moi, je n'accepte pas que tu fais l'art. Et à ce moment-là, j'ai dit non. C'était ma première non à mon père. C'est bien aussi d'apprendre, d'apprendre à dire non, parce qu'on a parfois les femmes, ils l'acceptent, ils l'acceptent, ils l'acceptent. Le moment que j'ai dit non, et c'était un peu dur pour moi parce qu'elle m'a donné. Elle m'a dit quoi, quoi, tu dis ça, tu dis ça. Et il a pris sa main, elle m'a giflé. Ah ouais, c'était le plus dur, c'était le plus dur moment de ma vie parce que c'était très intense. Et à ce moment-là, je pense, j'ai passé 4 mois, je parle pas beaucoup, j'étais en mode très. Et je lui dis, c'était pendant la période de l'été, je dis, je veux travailler, je veux faire ça. Et je dis à papa, moi je choisis d'être une artiste, t'aimes ça ou t'aimes pas, moi je veux le faire. Il m'a dit, tu le fais, moi je donne aucun centime. Et je dis, tu vas voir. Il y avait une prof qui m'a aidée, elle m'a dit, t'inquiète si t'as envie de faire ça, parce que j'ai gagné beaucoup de prix pour l'école, pour notre lycée. J'ai gagné beaucoup. Du coup, il avait, on peut dire, cette prof, moi, je peux dire, c'est elle qui a changé toute ma vie. Wow. Elle m'a donné la première somme pour acheter le petit matériel. Après, je commençais à travailler, faire mes études. J'étais pendant 6 ans la première aux facultés, pour ma promotion. Et comme ça, jusqu'à le moment où un jour, j'ai invité papa. Ils ont dit, oh, tu es le papa de Mariam, tu es le papa. Et lui, il ne comprenait rien, tu vois, il ne comprenait rien. Et jusqu'à qu'il a assisté à ma soutenance. C'était, je ne sais pas si ça, c'est bien ce que je raconte. Ou non.
C'est très bien, okay. Mariam.
Ouais.
Sans toi, libre, vraiment.
Et c'était un peu comme ça et... Mais j'étais... Et papa, elle était un peu choquée parce qu'il voyait ça. Et à ce moment-là, elle dit, ok, t'as montré quelque chose. Mais il ne voulait pas l'admettre, en fait. Il ne voulait pas l'admettre, mais ça va, c'était pas... Et le deuxième moment, c'était le moment où... Parce que moi, j'ai lu beaucoup sur un peu pourquoi moi, je suis voilée, pourquoi mon corps, il est comme ça. Et j'ai posé beaucoup de questions par rapport à ce que j'ai appris. J'ai lu beaucoup, en fait... J'ai lu beaucoup de trucs sur la charia, le truc, la religion islamique. Je dis pourquoi moi je dois être voilée, parce que je suis en question de... C'était toujours mon corps, parce que je sais pas pourquoi nous les femmes on doit mettre un foulard, on peut dire comme ça. Et l'homme, il peut faire tout ce qu'il veut. Et la femme, elle était toujours jugée avec n'importe quel truc qu'elle fait, c'est toujours sa faute. Si je suis agressée parce que j'ai porté quelque chose de... Et ça, on a pas ça beaucoup en Tunisie, mais ma famille, elle est très conservatrice, moi, je peux dire ça. Et malgré, je vois les photos de ma mère quand elle était jeune, quand elle avait mon âge, on peut dire 20 ans, 25 ans, elle avait des petites jupes comme ça, c'était super, elle était trop belle et tout. Et je sais bien que ma mère, la pauvre, elle sait bien que j'ai envie d'être belle, de faire ça. Et je posais des questions, j'ai dit à mon père, pourquoi ? Il m'a dit, c'est comme ça, c'est la société, il est dur la société. J'étais à l'extérieur, avec mon hijab, on peut dire. Mais j'étais toujours draguée, j'étais toujours... Il y a toujours des mecs qui essayent de te... J'étais pas la seule, en disant il y a des choses aussi dans mon enfance aussi, je peux pas aussi parfois l'acte que j'avais quand j'étais, l'acte de pédophilie, ça j'ai pas envie aussi de parler beaucoup de ça. Mais il y avait des moments de ma vie qui sont restés comme ça en rapport avec mon corps, et moi j'ai dit non, je dois apprendre le pouvoir sur mon corps. Et je me vois pas, je jamais regardé mon corps comme ça devant une miroir. Je commençais à regarder, pourquoi je suis normale, il n'y a rien qui est différent d'autres et tout. Et à ce moment-là, je commençais à s'intéresser à lire dans le Coran, comment ça... Je trouve tout ça, c'était juste de tradition, ça n'existe même pas dans le truc. Je dis, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? C'est qui est moi? Et après, parce que moi, pour moi... quand on est dans une famille très religion, ça te... Mais je respecte toutes les religions, mais j'ai une liberté aussi. Et j'ai décidé, c'était ma sœur avant moi, qui a décidé d'enlever le foulard.
Ah voilà.
Le hijab, je pense, le truc. Mm. Et j'ai dit, putain, ma sœur, elle est plus libre que moi à sa façon. Elle a dit, non, moi, je veux plus. Papa, elle veut, mais moi, non. Et ma sœur, elle était quelqu'un de très rebelle. Et moi, tu sais, j'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai le respect à mon père, mais aussi, moi, je dois avoir le respect à moi-même, à ma personnalité, à qui je suis. Et j'ai passé par des moments aussi, j'étais un peu malade, j'avais une maladie très... À un certain moment, mon médecin m'a dit « t'as que 6 mois » et à ce moment-là, j'ai dit « putain, j'ai rien fait de ma vie, j'ai pas profité, j'étais toujours dans la tradition, j'étais toujours dans... j'ai envie de pas être le bon modèle, j'ai envie d'être moi, de vivre moi » et j'ai décidé d'arrêter ma thèse. J'ai décidé de... il y avait un appel à candidature pour c'était un appel pour une comédienne. J'ai dit ok, je veux tester. J'ai essayé d'être une comédienne à la télé tunisienne. J'ai réussi. J'avais une proposition d'être une chroniqueuse à la télé.
Wow.
Et après j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Mm-hmm. Ça reste. Et après j'ai arrêté la thèse. Ils avaient mon prof, mais comment tu arrêtes la thèse, comment tu arrêtes? J'ai dit, je veux plus de ça, tout ça je veux plus. Et il m'a dit ok. J'ai suis venue ici en Belgique parce que j'étais acceptée avec cette compagnie. Mm-hmm. Je suis venue ici et dès le début j'ai pas aimé parce que j'étais pendant il pleut, il n'y avait pas de soleil. Il dit c'est quoi ce temps déprimant. Et et après, je suis rentrée en Tunisie, on a fait notre tournée. Mmh. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un de très... Je ne sais pas si c'est personnel, mais j'ai rencontré mon mari, mon futur mari. Et après, je suis venue... J'ai un autre contrat pour venir ici à Bruxelles. Mmh. Et à ce moment-là, je commençais à découvrir ce pays qui peut-être m'a ouvert... J'étais libre dans mon pays, mais pas à ce point. Parce qu'ici, je fais... Je suis moi sans jugement. J'étais libérée du jugement. Et même mon père, à certains moments, il a accepté. Maman, il a accepté. Ils ont accepté à ce moment-là. Mais le pire que je fais encore, parce que je suis mariée à un non-musulman, à quelqu'un qui est, tu vois, quelqu'un qui n'est pas tunisien, quelqu'un qui l'est. Du coup, pour faire ça, on avait tout un parcours pour... convaincre mon père, convaincre la famille. Merci, on a fait notre mariage et tout. Mais après, je faisais beaucoup de choses aussi en Tunisie. C'était le terrain favorable. Je fais toutes mes performances. À certains moments, je commençais à être connue par les performances à notre école. Même à l'extérieur, elle m'appelait. Ah, regarde, c'est la folle toujours dans la rue. Ah, la folle dans la rue. Après, tout le monde me connaît partout. J'ai dit, ok, ça devient... La première fois, c'est choquant. La deuxième fois, une autre performance, c'est choquant. Et après, ah, est-ce que tu vas nous faire quelque chose? Ils ont commencé à avoir l'habitude d'attendre. Ah, tu veux faire quelque chose, Mariem, cette fois-ci? Tu veux faire quelque chose? Et j'ai dit, ah, c'est bien. Dès le début, ça choque. Mais avec le temps, s'ils ont l'habitude de voir le corps, s'ils ont l'habitude de voir une femme qui est en train de faire ça, c'est... Et du coup, c'était... Je me trouvais à l'aise avec ça. Il y avait des moments où j'étais agressée dans la rue, c'est normal. Même si j'étais ici, j'aurais peut-être la même réaction. Et j'ai dit, ouais, tiens, ça commence bien. Et après, j'ai plus... Peut-être l'art aussi, ça m'a aidé aussi à dépasser ma maladie un peu, parce que j'ai commencé à danser à fond, à faire ce que je veux. Et l'art, ça libère. Ça fait... Et après, je suis venue ici, j'ai fait l'école d'art. Et maintenant, j'ai créé cette école aussi moi-même pour aider les femmes à travers l'art qu'on peut dépasser notre souffrance. On peut être nous. Il faut dire non.
Voilà. Ouais. Mais c'est un magnifique parcours, dis donc. Pas facile.
Ouais.
Pas facile. Tu es une femme certainement très résistante. Et je trouve ça vraiment magnifique et... Beaucoup de femmes qui ont cette sensibilité-là comme toi et tous ces questionnements qui viennent devraient également s'inspirer de toi, clairement, moi je trouve. Mariam, bravo en tout cas. Et donc justement, une de mes questions, c'était, est-ce que dans ton environnement familial ou scolaire, quelqu'un t'a inspiré, t'a montré l'exemple, mais là tu m'en as donc parlé, c'était ton professeur apparemment. Donc,
j'avais une professeure, oui. Mais c'était pas, elle n'était pas la seule. Moi, ce que je dis, que j'avais de la chance d'être en Tunisie, d'avoir des gens comme ça compétents, qui te suivent, même si c'est, j'avais quelque chose, j'avais l'amour de ma famille aussi. Oui, c'est un peu, papa, il est un peu dans son délire. Mais j'avais l'amour de ma mère. Mais aussi, qu'en sortant dans la rue, j'étais dans une époque où si c'est pas ton oncle va t'aider, ton voisin va t'aider, elle va te dire tout le monde. J'étais dans une communauté, elle était très accueillante. Et c'était une communauté qui te guide. Ah, tu veux ça? Ok. Même ton père, elle peut pas. Alors nous, on va le faire. C'était comme ça, c'était uni. Après, c'était mes profs. Moi, j'ai toujours... J'ai maintenant ces trucs de loyauté, je peux dire, à eux. Et je suis très reconnaissante qu'est-ce qu'ils m'ont donné dans ma vie. C'était... C'est pas seulement une seule, il y avait une deuxième, une troisième. C'était tout ce qu'ils... Parce qu'ils pensaient que j'ai quelque chose. Ils ont cru en moi. Et c'est ça, moi, j'ai envie de s'y partager aux autres femmes. Parce qu'il faut croire aux femmes. Ils ont tout, si on veut faire, on le fait. On peut le faire. On peut pas dire oui, il y a une discrimination. J'étais discriminée, j'étais ça. Non, faut pas. Faut résister.
Dépasser ce côté victimaire.
Victime, oui.
Oui, tout à fait. Mais donc toi, tu as eu donc finalement le véritable obstacle, si je comprends bien, c'était ton papa.
Oui, mais c'était mon père, mais en même temps, c'était quand je le vois de l'autre côté, si c'était pas comme ça, moi je serais pas comme ça aussi, je voulais pas. Mais c'était aussi la société patriarcale, moi je peux dire.
D'accord.
Parce que je viens d'une famille, c'est pas le père qui décide, c'est le grand-père qui décide de papa, et le papa doit voir avec l'oncle. On était d'une famille un peu qu'on doit faire tout. C'était ça aussi. Et peut-être aussi il y a d'autres trucs, mais c'est pas comme... Mais moi, c'était le premier obstacle, ça sort de ma famille. C'est ça. Papa, on peut dire la société patriarcale. En sortant aussi la grande famille, en sortant aussi la société, qu'il a les jugements, on peut dire, les stéréotypes qu'il le donne. Après, c'était des difficultés un peu à l'école, mais après, la situation aussi de la Tunisie qui a changé, parce qu'avant, on était dans un état avec, on peut dire, le régime de Ben Ali. C'est vrai, c'était un peu, il y avait la dictature et tout, mais on était un peu en paix, on peut dire. Ça change aussi, la situation de la Tunisie, elle est différente maintenant, elle est dure, mais en même temps, il y a quelque chose de bien qu'on peut parler. Avant, on ne peut pas le faire. Mais aussi, il y a aussi pendant la période un peu des islamistes, parce que moi, à certains moments, j'ai détesté le discours un peu, on peut dire, de la religion, les gens qui utilisent la religion pour leur... Parce que j'en ai marre de ça. J'ai vécu ça dans mon enfance. Et après, je trouve ça à l'échelle plus grande et j'ai dit, oh, j'en peux plus, c'est trop. Et il faut agir, il faut avoir... Et du coup, j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont presque le même parcours que moi. Elles avaient la haine, la rage contre ça et on a dit, on doit lutter. Notre pays ne doit pas être pris par ces gens. Du coup, on fait tout ce qui est art. Mais on ne peut pas... je ne dis pas provoquant, mais je dis un art qui fait pousser à penser.
C'est ça.
Oui.
D'avoir
l'esprit critique.
D'avoir un esprit plus critique et des réflexions qui bousculent un peu, quoi. Et pas être dans des chemins tout faits à l'avance. Oui, oui, tout à fait. Bien, en tout cas, vraiment passionnant comme parcours. Et je voulais également te demander... donc, il n'y a pas d'autres artistes dans ta famille proche ou dans des cercles d'une famille un peu plus lointaine. Tu es vraiment dans la famille un peu, comment on va dire ça, le vilain petit canard qui sort un peu de la tradition, comme tu dis, mais même artistiquement parlant, il n'y avait pas d'autres...
Moi, je peux dire la première artiste, oui. C'est ma mère.
Ah oui.
Quand, moi, j'ai dit, moi, je vois, c'est une artiste. Mais avant, toujours, Mara, quand nous ramène à la maison, on était des petits. Mm-hmm. Et ma mère, elle nous ramène tous les petits de nos voisins, tous, ils viennent le soir, parce que maman, elle a un pouvoir de raconter des histoires. Et ce qu'elle fait, toujours ces histoires, c'était les femmes qui gagnaient. Et c'est toujours, elle donne, c'est toujours dans ces histoires que l'homme, il n'écoute pas la femme et c'est la femme qui gagne. Et c'est ça que j'ai appris de chez maman. Mm-hmm. Ma grand-mère, c'était quelqu'un qui chantait un peu des chansons berbères, on peut dire ça. C'est pour ça, peut-être ma sœur maintenant, et elle chante. Mm-hmm. Elle fait des trucs sur TikTok, des trucs des mm-hmm. jeunes maintenant en mm-hmm. chantant, elle fait du rap et tout. Et mon frère, à certains moments, il aimait aussi faire l'art, mais mon père, non, 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 non. Mm-hmm. Et le pauvre, peut-être lui, il a pris une sorte, un peu un parcours, il a fait du chimie et tout. Mais moi, je dis, ma première artiste, c'est ma mère. Mm-hmm. C'est elle qu'elle m'a appris, même un peu dessiner. Mm-hmm. C'est elle, c'était mm-hmm. moi, je dis, c'est mon héros, c'est mon...
Oui. Mais toi, tu la considères comme artiste, mais elle n'était pas...
Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a, mais sa façon comment attirer, ouais. Sa façon comment raconter les histoires, elle n'est pas au courant qu'elle est une artiste, elle ne sait pas. Mais les trucs, les idées qu'elle a passées à travers ses histoires à moi, ça m'a donné la force que jamais je lâche rien jusqu'au bout. Je dois être une bonne, comment on dit... Il faut résister. Et c'est toujours dans ces histoires, ça m'a inspiré. Moi, ça a inspiré aussi d'autres de mon côté, même aussi mes petites sœurs aussi. Je vois maintenant mes petites sœurs, mes sœurs, elles sont comme ça. Elles ont une forte personnalité, même plus, qui dit non, direct. Elles ont l'habitude de dire waouh, quelle force. Elles disent non. Qui peut dire non, c'est...
Donc tout ça vient du côté. Maternelle, on va dire, de ta maman.
Et papa aussi, il aime danser avant. Oui. Je m'en souviens avant papa, parce qu'avant qu'il est, on peut dire, très. Il n'était pas pratiquant, papa. Mm-hmm. Avant, elle fait la danse et tout. Et la première fois, je m'en souviens que j'avais 5 ans, elle lui dit allez, venez, il invite tous mes cousins, tous mes cousines. Tout. Allez, ma fille, elle va danser, c'est la meilleure danseuse, elle me met la musique. Et c'était le sujet de. On danse de la soirée avec mes cousins. Non, ma fille, elle m'a appris aussi à danser. Mais à l'âge, quand j'ai eu mes règles, tout est changé. Je dis, putain, c'est quoi ça? J'étais libre. Après, ça a changé. Avant, il me ramenait avec lui au café, à la mosquée, partout, il me ramène avec lui. Et après, quand j'ai eu mes règles, tout est transformé parce que je suis devenue une femme.
Une femme. D'accord, ça c'est très important, ce moment-là. D'accord. Alors, donc ça je t'ai demandé, tes parents, je t'ai demandé, et actuellement, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu vis, professionnellement parlant, de ta vie d'artiste ?
On peut dire, la vie d'artiste, c'est un peu dur maintenant pour toutes les femmes. On peut dire, même pour tous les artistes, c'est pas que les femmes seulement. Mm-hmm. Mais il faut peut-être ce que. Moi, j'avais des solutions un peu pour essayer de rendre. Je fais des boulots, mais je rentre le côté artistique, du coup, pour gagner ma vie. Mm-hmm. Mais c'est pas évident. Maintenant, j'ai créé cette école. D'art, on peut dire école européenne pour l'intégration des migrants par l'art, parce que je trouvais que je me suis bien sortie, bien à travers l'art et via l'art, je dis ça sera bien que j'apprendre aux gens qu'avec l'art on peut créer notre propre économie, mais aussi qu'on peut aussi bien s'intégrer et avoir, on peut dire avec l'art, on peut être on peut atteindre, on peut dire, la femme parfaite. Il n'y a pas de perfection, mais la perfection dans le bon ton, on peut s'adapter avec tout ce qu'on a. Mais c'est dur pour une femme de vivre de son art.
Ouais.
Même c'est dur pour un artiste de vivre de son art, et surtout que si c'est une femme.
Une femme, encore plus.
Encore plus.
Selon toi, quels sont les obstacles qui viennent s'ajouter quand on est une femme? Toi, qu'est-ce que dans ton vécu à toi, ton expérience à toi?
C'est les défis qu'une femme peut avoir. On peut. Et On peut dire, parce que moi, j'ai passé peut-être mon expérience et pas l'autre expérience de quelqu'un d'autre. Mais toujours, la femme, en le regardant comme un sujet, c'est pas toujours, mais des moments, on peut dire, un sujet un peu sexualisé. Et aussi, la femme, on peut dire, oui, quand elle est forte, quand elle essaye de dire qu'est-ce qu'elle a, peut-être cette force que là, elle est un peu jugée par l'autre. Ça peut être une femme ou ça peut être un homme, surtout dans une société, si ce sont des gens comme toi qui ont la même culture que toi, donc, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Et surtout quand j'ai fait la première performance, j'ai fait ici à Bruxelles, j'étais choquée parce que j'avais des remarques, c'était trois ou quatre fois pire que j'avais des remarques en Tunisie. Ah oui, c'était, il y avait tellement cette performance, j'ai dit oh. J'ai fait, je pense, la performance ici. Mais...
Ah oui, la...
Oui, oui.
Je vois.
Et les femmes...
Des mariages forcés.
Oui, oui. Et les femmes, elles étaient comme ça en cachant les yeux de leurs enfants. Ouais. J'ai dit, mais j'ai pas... C'est un corps, c'est un simple corps. Pourquoi vous... Et c'est ça, on voit pas l'œuvre de la femme, mais on voit son corps.
On voit son.
En fait, on donne une connotation sexuelle sur son corps. Peut-être exact. Ça, c'est que j'ai vécu avec la communauté. Peut-être maintenant, moi, je vois pas ça. Mais aussi, avoir l'économie ici pour une femme, aussi, je vois. Parce qu'en Tunisie, les femmes touchent le même salaire qu'un homme. Ici, je vois, c'est un peu différent. Je sais pas pourquoi. Ça, j'arrive pas à comprendre.
Ah oui, bon, non, mais ça, c'est vrai que... Par contre, en Belgique, les hommes gagnent certainement plus que les femmes. On lutte, on fait des actions. Alors, le pourquoi, ça dépend des métiers après aussi. Il y a des métiers plus physiques, moins physiques. Mais c'est ce que nous héritons finalement de révoltes sociales qui... malheureusement n'ont pas pu aboutir comme on le souhaitait, mais est-ce que la parité, l'égalité, on y arrivera un jour?
Mais c'est ça, malheureusement, je sais pas, on sait pas, mais aussi moi je peux dire aussi c'est dur à être un artiste, c'est dur d'être une femme artiste, c'est dur d'être une femme artiste migrante.
Ah voilà, là on en vient aussi à cette problématique là de cumuler finalement trois pénalités finalement, d'être déjà une femme, d'être artiste avec un statut, on ne sait pas trop est-ce que c'est un métier, enfin on ne sait pas, mais en plus effectivement ça faisait partie de mes questions, quand en plus s'ajoute la question de l'origine, qu'on est issu de l'immigration, une artiste migrante. Dis-moi, est-ce que toi en tant qu'artiste femme migrante, tu as, ci et là, rencontré des discriminations? Dis-moi.
J'avais, mais là, j'essaie un peu de... Quand on n'est pas d'origine, ça veut dire qu'il y a des gens qui profitent de toi. Parce que dès le début, moi, je ne connais pas les lois de la Belgique et tout. Et j'étais peut-être utilisée par d'autres que j'ai bossé pour eux et tout. Ça, je n'aime pas rentrer dedans parce que... un peu ce qui s'est passé, c'était pas bien en fait. Et vu que j'avais mes tout, on peut dire, j'ai un master de recherche et je fais quelque chose qui correspondant pas à mes compétences, j'ai fait des bêtes boulots, avec tout mon respect, ça me fait j'ai senti un peu humiliée. Et l'humiliation, ça m'a donné cette force, je dis non, je suis un être humain. Je suis dans un pays où il y a les droits de l'homme et tout est bien. Il y a plusieurs structures, je change. J'ai changé de boulot, j'ai dit ça va. Peut-être le boulot, c'était pas à moi. Ça ne correspondait pas à moi. Mais aussi le problème, parce que j'ai changé, j'avais pas aussi, l'équivalence. Et ça, c'est très dur ici à Bruxelles, d'avoir la même équivalence de ton diplôme. Et ça te fait retarder. Moi, je ne veux pas refaire 7 ans des bien études sûr. Parce que c'est très... j'ai envie d'avancer. Je ne veux pas reprendre dès le début comment dessiner, rentrer dans des écoles d'art juste pour avoir l'équivalence, pour après être une prof. C'est du temps perdu, moi, bien je peux sûr. Dire. Et du coup, je dis, je dois avoir de le bon côté de cet endroit, tu vois. Mmh, parce que moi, je trouve, le moment où on voit les meilleurs trucs, moi, je dis la Belgique, on peut, tout est possible ici, dans ce pays. On peut dire Bruxelles, surtout. Tout est possible. Il y a tellement beaucoup de structures qui encouragent, comme votre structure.
Ouais.
Pour ça, je suis venue ici, parce que j'ai soif de trouver des gens comme moi, de les rencontrer pour créer mon avenir aussi, pour créer mon avenir. J'ai envie aussi de vivre mon art. J'ai pas envie de le garder, faire l'art décoratif. Non, j'ai envie de vivre de mon art. J'ai envie de rencontrer d'autres qui ont envie de vivre de leur art et qu'on peut construire une communauté pour ces femmes qui ont envie d'être, comment on dit... seen, to be seen, to,
ouais.
to,
visible,
visible
visibiliser.
Visibiliser ces femmes artistes. Ça peut être des femmes d'origine belge ou des femmes d'autres origines.
Oui, tout à fait.
Et j'ai rencontré tellement beaucoup de femmes d'origine belge, les pauvres, elles aussi, elles voulaient aussi être visibilisées, malgré qu'ils sont dans un pays européen. Pour nous, on avait l'idée, waouh, en Europe, je veux être le meilleur artiste, ça va être... Mais non, c'est encore pire.
C'est vrai, parce que c'est vrai.
À l'échelle plus, c'est plus grand. Dans mon pays, il n'y a pas beaucoup. Et du coup, ici, s'il y a tellement beaucoup, comment être visible dans ce tellement beaucoup d'artistes?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que tu as été confrontée à... Donc, tu arrives à Bruxelles. En général, quand on débarque quelque part, on essaie de se rapprocher de... entre guillemets, de sa communauté, on va dire. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as pris des contacts d'abord justement avec la communauté tunisienne ici à Bruxelles? Est-ce qu'ils t'ont favorisé des, je sais pas moi, des échanges avec des lieux artistiques? Comment ça s'est passé justement?
Moi, quand j'étais ici, peut-être j'avais de la chance aussi d'être dans une compagnie itinérante. Quand on voyage d'un endroit à un autre, je rencontre, même dans mon pays, j'étais toujours ouverte à plusieurs. Moi, ça c'était pas tunisien ou belge, pour moi c'est la même, c'est la même chose. Comme j'avais fait des rencontres, ça me fait du bien d'entendre ma langue d'origine. Tunisien, ça commence direct, ça crée direct le lien. Mais aussi, j'ai sorti mes premiers amis, c'était des belges. Et du coup, c'était eux qu'on se rencontrait en disant tiens. Et eux me font rencontrer aussi des Tunisiens. Et après, je rencontre d'autres Tunisiens. Et c'était comme ça. Et le premier Tunisien, peut-être on peut dire, que j'ai rencontré, c'était dans mon spectacle que j'ai fait. C'était dans mon spectacle. Elle m'a dit oui, c'est ça. Et elle m'a défendue devant toutes les femmes. Elle a dit: si vous n'êtes pas ouvert, vous pouvez quitter la salle. C'est ça l'art, c'est son art. Elle est libre dans son corps, pour son corps.
Magnifique.
Mais j'ai dit, waouh.
Ça, c'est génial. Ça.
Oui, et c'est, pour moi, c'est ça.
Ouais.
Mais j'avais un peu, peut-être, j'avais un peu des, on peut dire, des trucs qui m'ont fait mal, parce qu'il y avait des gens qui m'ont un peu maltraité. C'était un peu dur pour moi, parce que c'est la première fois que j'étais victime de racisme. Et c'était dur. Mon cerveau n'arrive pas à accepter que... Moi, je suis comme tout le monde. C'est vrai, je suis un peu basanée, je suis de couleur, mais c'était choquant de trouver des gens qui existent maintenant, en 2021, 2022, des gens comme ça, racistes. Il y avait un moment où quelqu'un a dit à mon mari, c'est quelqu'un qu'on a invité chez nous. C'était tellement débile. J'ai cuisiné, j'ai préparé, on l'a donné à boire et tout, on était content et tout. Et à un moment, on l'a dit à ma mari, ah, c'est bien d'avoir un chien de compagnie et toi, t'as Mariem. J'étais tellement... Et c'est là que j'oublierai jamais.
Et quelle a été ta réaction alors? Et celle de ton mari?
On était... Tu penses pas que quelqu'un peut dire ça? Mais c'est quelque chose un peu... Je lui dis, monsieur, faut pas oublier que vous êtes chez moi.
Bien sûr.
Je vous donnais à manger.
Mais oui.
Non, c'était une blague.
Oui, voilà.
Oui, je lui dis, non, c'est pas une blague, c'est bien. Et j'étais choquée. Et le premier moment aussi, quand je suis partie aussi pour demander le mariage avec mon mari, Ça, c'était aussi une autre. Parce qu'elle m'a dit ton conjoint. Moi, j'ai jamais entendu, moi, j'ai jamais été en couple. Genre. C'est mon premier couple, c'est Jérémy. Du coup, je ne sais pas c'est quoi conjoint, qu'est-ce que ça veut dire, même pas. J'avais pas des. Le moment m'a dit ton conjoint, je dis tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire conjoint. Après, elle m'a. C'était très violent. Moi, je ne veux pas passer un rendez-vous de 5 heures de ça. Et j'ai dit. Madame, je parle en français avec vous, madame, je parle en français. Non, 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 vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire un mot conjoint, du coup, vous parlez pas français, moi je veux pas passer. Je dis, madame, je parle en français, regarde. Et c'était ça, c'était les deux qui m'ont fait tellement mal que je peux pas oublier. Mais après, je trouvais aussi tellement de gens, tellement énormes, plein d'amour, mais des Belges, mais ce sont mes amis. Et moi, je trouve, j'ai dit, waouh, quel. C'est moi je trouve leur façon comme les amis de mon mari mes amis France tu vois France et j'ai trouvé des gens mais tellement géniaux aussi quand j'ai voyagé je faisais l'affichage pour mon truc et c'était super j'ai rencontré des gens super sympas j'ai dit comment on peut partir en Tunisie on trouve des gens méchants des gens gentils dans tout le monde c'est universel. Et du coup, il y a des gens pleins d'amour. Et ce amour, moi, je trouve plus d'amour ici. C'est vrai, il y a des moments que c'était chiant, mais je trouvais tellement de plaisir ici. Je n'ai jamais senti expatriée.
C'est ça.
Ah, à c'est part vrai. Ces deux moments, c'est ça.
Bah, écoute, très, très bien. Alors, qu'est-ce que... Donc, pour en revenir éventuellement à des obstacles que tu aurais rencontrés dans ton parcours artistique... Tu n'as pas en tête vraiment des obstacles majeurs qui t'ont empêché de pratiquer ton art. Vraiment des obstacles... Enfin, tu en as eu, mais tu les as à chaque fois dépassés, justement.
Oui, oui, j'essaie de...
Mais de vrais obstacles, bon...
Peut-être on peut dire le vrai obstacle, dès le début pour mes études, c'était le financement, parce que je n'étais pas financée. La situation très dure de pays... Ça, c'est très dur. Aussi, la situation quand j'étais ici, je suis migrante. Ouais. Je vivais de 300 euros. Ça, c'est pas facile.
Ouf, oui.
300 euros, bien vivre sûr. Avec 300 euros. Je dois aussi me montrer que je travaillais. Et aussi parce que le moment que je me suis inscrite à l'école à Paris, ils m'ont demandé de payer 3000 euros. Moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, je suis une... Le directeur, elle m'a dit, 3000 euros, c'est rien. Je dis, monsieur, c'est rien pour vous. Mais c'est trop pour une migrante comme moi. Moi, je suis une artiste, mais aussi une migrante. Pas de boulot, mais j'ai une... Et ça, c'était très dur aussi, on peut dire. Mais aussi, on peut dire, moi, parce que moi, j'écoute pas les... Il y a des critiques aussi, parfois, qui te blessent. Et moi, je n'étais pas ça. Moi, peut-être je suis devenue... Et c'était aussi ma maladie. À certains moments, mes maladies, j'ai dépassé avec mon art. J'ai dit non, ça ne va pas être mon obstacle. Et le moment que j'ai utilisé mon art, moi, je fais un truc que je nommais le chata. Comment transformer l'énergie négative vers une énergie positive pour créer l'harmonie avec moi, avec l'autre, avec le groupe en général. C'est ce truc que j'ai fait. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à dépasser. Et même le médecin, il m'a dit... ton évolution, elle est bien, tu vois. Il m'a dit, il faut... Parce que je suis tellement sensible que je garde à l'intérieur que ça détruit mon corps. Je dis, non, je ne veux plus. Je veux tout extérioriser. Voilà. J'ai utilisé ce chata qui m'a aidé.
Magnifique. Et le chata, en fait, c'est quelque chose qui se pratique plus en Tunisie ou
non, non, c'est mon concept artistique.
C'est à toi, hein?
Oui, d'accord, c'est à moi. Oui, okay. Parce que moi, il y avait un moment, j'étais fascinée par le soufisme. Je suis soufiste. Il y avait un moment, j'adore le soufisme parce que ça libère le corps avec des choses et avec la danse. Et en Tunisie, il y a tellement beaucoup. C'est un endroit où il y avait l'histoire du soufisme, elle est bien installée. Et c'est la relation entre le spirituel, le corps, l'environnement. Et du coup, j'essayais de m'inspirer de ça en rajoutant mon expérience dans le théâtre, mon expérience dans la performance. Parce que si je peux revenir un peu à la différence entre théâtre et performance, ça peut-être les citer. Parce que le théâtre, il est basé sur, on peut dire, sur la mensonge. C'est jouer sur le jeu. Mm-hmm. Le mensonge, pardon, je dis.
Pas de problème.
Pardon, je ne veux pas. Il est basé sur le mensonge. Mm-hmm. Le mensonge, parce que... Mais on joue quelque chose et tellement on sait bien mentir, ça devient vrai. Et tu le crois. Mais ça reste toujours des mensonges. Ça ne vient pas de toi. Tu peux imaginer, tu essayes de trouver l'équilibre entre ta mémoire et la mémoire de personnage. Comme ça, tu peux bien l'adapter. Mm-hmm. Par contre, la performance, c'est quelque chose d'autre. La performance, c'est le réel.
Oui.
Tout ce qui sort, ça sort de l'artiste. Comme il a dit Marina Abramović, quand elle a dit « Theater is fake, but performance is reality
».
C'est la réalité, la performance c'est la réalité, la souffrance ça vient de toi, la joie ça vient de toi,
ouais.
Tout ça vient de toi, c'est réel. On peut toucher ça, dans l'artiste quand il joue, on dit « waouh, ça touche » parce que c'est réel. Et parfois ça va être... douloureux, qu'on trouve comme stellar, ou des gens qui essayent de toucher leur corps. Et du coup, pour moi, ces deux, j'essayais, les expériences que j'avais de ça, de créer mon concept à moi avec la réalité aussi, parce qu'il y a on peut dire le fake, on peut dire c'est qu'on a l'imagination, l'imagination, parce que ça, on peut rajouter des choses, des choses avec le sentiment, le réel qu'on a. Après, avec la réalité et le présent, parce qu'il y a le présent, c'est le choix qu'on va choisir et tout. Comment on peut trouver une combinaison entre celles-là et à l'échelle qui est durable, parce que toujours quand je fais la performance, je suis très heureuse, très heureuse. Après, hop, à la fin du spectacle,
il n'y a rien.
Je reprends la vie. Du coup, j'avais on peut dire,
décalage.
J'ai envie qu'il dure un peu. C'est rien qui n'est durable, mais ça sera bien que je vois ma vie d'une autre façon. Comme les sophistes, ils voient leur vie, ils sont en harmonie, comme aussi les bouddhistes aussi.
Oui.
Ouais. Les bouddhistes, je respecte beaucoup la culture bouddhiste. Aussi, comme ils sont en harmonie avec leur espace, leur endroit, j'ai dit, je dois créer le zen en moi.
Voilà.
Et du coup, j'ai créé le chatha. On nomme le chatha, ça vient de chatha. Le chatha, c'est la danse.
Ah oui, d'accord.
Oui, chatha. Okay. Et du coup, c'est la danse, c'est une sorte de danse, mais c'est une danse de voix. C'est la voix, parfois, il y a des... Ah oui, on peut danser avec notre voix. Et du corps, il y a des mouvements. Peut-être à un moment, je peux faire un atelier ici, si vous voulez, comme ça, vous pouvez comprendre. Et c'est extérioriser ce qu'on a. Parfois, l'exercice, ça fait, on peut sortir dans un endroit comme ça et juste commencer à crier en deux. Après, il y a des moments où on rigole. Et du coup, c'est la folie, mais raisonnable.
Mais raisonnable, ok.
Qui fait extérioriser, qu'est-ce qu'on a? Cette énergie, on est stressé, on a le truc ici. On vient pour pratiquer et comme ça, cette force qui nous tire vers l'arrière, c'est comme un arc, on va le tirer, ça va nous faire avancer en avant.
D'accord.
C'est ça.
Et qui libère, en fait.
Qui libère.
Hein, et qui libère.
Ouais. Et ça vient aussi le life performance. Ma vie, c'est une performance à l'échelle d'une vie.
Ah, ça, c'est très important aussi comme concept. Est-ce que tu peux nous en dire plus, la life performance?
La life performance.
Ouais.
Moi, comme j'ai dit, le théâtre, il n'est pas durable. La performance, il n'est pas durable. Je voulais quelque chose qui est à l'échelle d'une vie, une performance. Ma vie, c'est une performance. Notre rencontre. Ça rentre dans mon œuvre. Ma vie, c'est une œuvre, on peut dire, œuvre d'art. C'est pas que moi que j'ai ramené. Il y a d'autres artistes qui l'ont traité, mais chacun comment on l'a traité. Et je dis que notre vie, elle est tellement importante parce qu'il y avait des moments où j'avais le déclin, quand j'avais le médecin, il m'a dit que j'ai 6 mois. Je me dis, putain, ma vie, elle est très importante. Ma vie, elle est très chère. Ma vie, elle est très... comment on dit? Elle a de valeur. Je dois donner tout ce que j'ai d'amour pour ma vie. Et ce amour que j'ai, les gens vont le sentir, ça va le transmettre vers eux. C'est mutuel.
Ouais. Mais en tout cas, ça se sent. Tu as comme ça l'art de nous, comment dire, on le sent très fort, hein, tu es quelqu'un qui nous fait vraiment partager ce que tu as vraiment en toi et cette belle énergie en tout cas, certainement vraiment Mariem. Ben écoute, tout doucement, on en arrive à la fin de ce premier entretien, parce qu'il y aura un deuxième entretien un peu plus tard. Juste, je voulais terminer. Ça, j'ai déjà posé. Oui, ben voilà. Quelle serait la thématique que tu aimerais que l'on aborde lors de notre prochaine expo ici ou au sein de notre collectif Sorocity, une thématique qui toi vraiment te tient à cœur et que tu aimerais exprimer face au public, face à d'autres sœurs artistes?
Moi je peux dire, je peux pas dire une thématique, mais je vous dis un mot, c'est le nom.
D'accord. Ouais.
C'est le nom. Comment vous voyez le nom?
Magnifique.
Le nom, ça veut dire la négation, mais non. Qu'on dit non. Une femme, quand elle dit non.
Eh oui.
Le avant-nom et le après-nom.
D'accord. Bon, ben, je vais moi-même déjà commencer à réfléchir autour du nom. Mariem, merci beaucoup, beaucoup
pour
cet entretien et continue en tout cas dans tes combats.
Merci beaucoup à vous, merci beaucoup aussi à Sorocity. Je trouve que c'est très bien parce que ici j'ai rencontré des femmes formidables comme toi aussi, et France aussi, grâce à elles. Moi j'ai rencontré Sorocity et j'ai dit ce que vous faites, même si c'est un peu. Si ça fait changer une femme, deux femmes, vous avez gagné votre parcours. Merci.
Merci Mariem, merci beaucoup. Voilà.